Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Une patrouille anti-braconnage composée de militaires, de forestiers, de formateurs et journalistes occidentaux a été attaquée lundi dans l'est du Burkina Faso sur l'axe Fada-Ngourma-Pama, faisant 3 blessés et 4 disparus, 2 Espagnols, un Irlandais et un Burkinabé, a appris l'AFP de sources locales et sécuritaires. L'attaque a été menée par des hommes armés circulant à bord de 2 véhicules pick-up et d'une dizaine de motos selon les sources sécuritaires qui ont précisé que des armes et du matériel, dont 2 pick-up et un drone, avaient été emportés par les assaillants. Au Tchad, tout juste nommé par le CMT ou Conseil militaire de transition, le premier ministre de la transition, Albert Payimi Padake, a appelé lundi à une union sacrée pour sauver la nation. Abdelrahman Dia fera le point. Par ailleurs, selon un décret du ministère de la Sécurité publique, les militaires au pouvoir ont interdit les manifestations de l'opposition et de la société civile tchadienne prévues mardi contre ce que ces dernières appellent le coup d'État institutionnel du CMT qui a pris le pouvoir après la mort d'Idriss Déby Itno. Au Nigeria, 2 responsables militaires ayant requis l'anonymat ont indiqué lundi matin qu'au moins 31 militaires ont été tués dimanche sur une route du nord-est où des djihadistes liés à l'État islamique ont tendu une embuscade à leur convoi. L'armée nigériane, elle, parle de 7 militaires tués, dont un officier, et de 5 blessés. En République démocratique du Congo, le programme du nouveau gouvernement a été très largement adopté lundi par l'Assemblée nationale. Eddy Issango nous en parlera. Et Michel Joseph nous parlera, elle, des quelques 1300 prisonniers libérés lundi au Burundi, premier jour de la mise en œuvre d'une grâce présidentielle visant à désengorger les prisons surpeuplées, selon des sources concordantes. En Somalie, des combattants pro-opposition lourdement armés contrôlaient lundi certaines zones de Mogadiscio, la capitale, au lendemain d'affrontements avec l'armée somalienne, ranimant le spectre des combats urbains entre factions claniques rivales qui ont ravagé la capitale dans le passé. 17 migrants, tous des Africains subsahariens, ont été retrouvés morts sur un bateau transportant des migrants au large des îles Canaries et 3 ont été sauvés, ont annoncé les secours en mer espagnole. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'entretient par visioconférence ce mardi avec le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, et celui du Kenya, Uhuru Kenyatta, deux partenaires stratégiques, et ce dans le cadre de la politique de réengagement des États-Unis avec leurs partenaires africains, selon Robert Godek, chef de la diplomatie américaine pour l'Afrique. Monsieur Blinken devrait se rendre en personne en Afrique lorsque la situation sanitaire le permettra. Les premières cargaisons d'aide médicale britannique, dont 100 ventilateurs et 95 concentrateurs d'oxygène, arrivent en Inde où le Royaume-Uni et les États-Unis acheminent de l'aide à ce pays dépassé par la pandémie et où la situation est plus que déchirante selon l'OMS. Par ailleurs, les États-Unis envisagent de distribuer progressivement 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca dans le monde. L'Agence de régulation sanitaire du Brésil s'est opposée lundi à la demande de plusieurs États du pays d'importer le vaccin russe Sputnik V contre le Covid-19, estimant manquer de données pour s'assurer de sa sûreté et de son efficacité. La croissance de la population américaine a nettement ralenti au cours de la dernière décennie, marquée notamment par le coup d'arrêt à l'immigration décidé par l'ex-président Donald Trump, selon les données du dernier recensement américain publié lundi. Les États-Unis comptaient 331 449 281 habitants au 1er avril 2020, soit 7,4% de plus qu'en 2010. Les chiffres globaux de la population par État servent à décider combien de sièges à la Chambre des représentants attribués à chaque État. La suite de nos informations. Au Tchad, le nouveau premier ministre, nommé hier par les militaires au pouvoir, appelle à une union sacrée pour sauver la nation. Albert Pahimi Padake retrouve un poste qu'il a eu à occuper sous le défunt président Idriss Déby Itno. Le point avec Abdulrahman Dia.
Monsieur Padake dit reconnaître la lourde responsabilité de sa nomination qui intervient dans un contexte extrêmement difficile après la mort de son ancien patron dans des combats dans le Nord et aussitôt remplacé par son fils Mahamat Idriss Déby. Répondant aux questions de nos confrères de l'AFP, Albert Pahimi Padake lance un appel à tous les Tchadiens autour d'une union sacrée pour, dit-il, sauver le Tchad face à la menace terroriste mais également face aux autres défis sécuritaires. Je vais me mettre au travail avec le président de transition, les acteurs politiques, la société civile, pour voir ensemble comment peut-être préparer un gouvernement qui soit le plus large possible parce que le Tchad a besoin de tous ses enfants, a conclu celui qui avait déjà occupé ce poste jusqu'en 2018, date de suppression de la fonction. Les principaux partis d'opposition ainsi que les syndicats et la société civile dénoncent un coup d'État institutionnel et appellent à une transition dirigée par les civils à travers un dialogue inclusif.
En République démocratique du Congo, le programme du nouveau gouvernement a été très largement adopté lundi par l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a mis l'accent sur la sécurité dans l'Est et il a promis des élections dans les délais constitutionnels d'ici fin 2023. Eddy Issango fait le point.
L'Assemblée a investi les gouvernements du nouveau Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé par 410 voix sur 412. Dans son discours, il a envisagé la proclamation par le chef de l'État de l'état d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en proie à des violences et des conflits armés. Des dizaines de groupes armés sont encore actifs dans l'est de la RDC, dont les forces démocratiques alliées accusées du massacre de milliers de civils en territoire de Beni. Le président Félix Tshisekedi avait promis d'installer l'état-major de l'armée dans cette région. Investi en janvier 2019, M. Tshisekedi a mis fin à la coalition avec son prédécesseur, Joseph Kabila. Il a obtenu une majorité parlementaire et a nommé un gouvernement des 57 membres. Le Premier ministre a affirmé que son gouvernement veut organiser les prochaines élections dans des délais constitutionnels. M. Tshisekedi s'est engagé ce week-end devant les députés qu'il y aura bien élection en 2023. L'exécutif était soupçonné de vouloir retarder les scrutins sous prétexte d'organiser au préalable un recensement de la population qui n'a pas eu lieu depuis 1984. Ce n'est pas un prétexte pour ne pas organiser des élections, a assuré M. Tshisekedi en défendant également les projets des recensements.
Le Burundi a libéré hier quelques 1300 prisonniers. C'est la première étape d'une grâce présidentielle visant à vider les prisons surpeuplées. Les détails avec Michel Joseph.
Près de 1000 prisonniers ont été libérés d'une prison de Bujumbura lors d'une cérémonie en présence du président Évariste Ndayishimiye, de ses ministres et des ambassadeurs étrangers. 331 autres détenus ont été libérés à Gitega, la capitale. Ils sont les premiers parmi 3000 détenus que le gouvernement a promis de libérer sous peu et 2000 autres ont reçu des réductions de peine. C'est la première fois dans notre pays que près de 5000 détenus bénéficient d'une grâce présidentielle, a déclaré le ministre de la Justice, Jeannine Nibizi. Le gouvernement avait annoncé en mars son intention de libérer plus de 5000 détenus, environ 40% de quelque 13 200 prisonniers, alors que les prisons burundaises ont une capacité de 4 100 personnes. Pour Pierre Claver Mbonimpa, président d'APRODE, une organisation de protection des détenus, c'est une bonne chose, même si les prisons restent bondées. Cependant, il regrette que les prisonniers politiques n'aient pas bénéficié de cette grâce présidentielle.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Cap Vert s'attend à un léger rebond cette année grâce aux exportations qui devraient fléchir, surtout en raison de la volonté du gouvernement de diversifier l'économie. Les importations recommencent à augmenter, en particulier des produits alimentaires qui équivalent à 70% des importations totales, ce qui devrait contribuer à réduire le déficit budgétaire traditionnellement financé par des prêts concessionnels de partenaires dont le FMI, qui a approuvé un décaissement de 32 millions de dollars pour aider le Cap-Vert à financer ce déficit. À Madagascar, la société d'État, fournisseur d'eau et d'électricité, veut commencer à appliquer le tarif Optima, la nouvelle formule de tarification électrique, à partir du mois de juillet. Elle implique une hausse du tarif variant selon la consommation. Optima a été exigé par les bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, pour contribuer à la restauration de l'équilibre financier de la compagnie nationale. Pour terminer, les prix de l'énergie devraient atteindre cette année des niveaux supérieurs de plus d'un tiers à ceux de 2020, avec un baril de pétrole s'établissant en moyenne à 56 dollars, alerte la Banque mondiale. Le baril devrait atteindre 60 dollars en moyenne en 2022. Les cours des métaux devraient augmenter de 30% et les prix agricoles de près de 14%. La demande devrait se raffermir en 2021 avec l'arrivée des vaccins, notamment dans les économies avancées, ainsi que l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie.
Merci Nanit. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Après avoir résisté au séisme de l'éphémère Super League, la Ligue des champions reprend avec des demi-finales alléchantes en match aller. Le Real Madrid fait face ce soir à Chelsea du portier sénégalais Edouard Mendy et de l'ailier marocain Hakim Ziyech. Zizou, trois fois vainqueur de la compétition comme entraîneur avec le même Real entre 2016 et 2018, pourra compter sur l'ancien de Chelsea, Eden Hazard qui fait son retour après une blessure. En face, l'entraîneur allemand Thomas Tuchel, arrivé chez les Blues en janvier après avoir été débarqué du Paris Saint-Germain, a fait du club anglais une forteresse. Il n'a perdu que deux fois en 21 rencontres. Demain mercredi, avec leurs effectifs pléthoriques, le PSG et Manchester City s'affrontent pour un ticket pour la finale à Istanbul le 29 mai. Sur le continent, le président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Soaré, n'est plus candidat à sa propre succession. Celui qui a dirigé la Fédifoot ces quatre dernières années dit se retirer dans un souci de rapprochement et de rassemblement, ajoutant, je cite, « J'ai consacré tout mon temps, mon énergie et mes ressources personnelles au développement du football de mon pays et du continent. Je ne souhaite pas être associé d'une quelconque manière au blocage de notre sport au roi. » Fin de citation. Aboubakar Touré se retrouve ainsi seul candidat en lice pour le moment pour l'élection du 14 mai prochain. Au Cameroun, Francis Ngannou, porté en triomphe par ses compatriotes, il est arrivé hier au bercail. Un mois après son sacre ici aux États-Unis comme champion du monde de la catégorie des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, entendez UFC, de Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap.
Les populations de Douala, ville dans laquelle Francis Ngannou a fait ses premiers pas dans les arts martiaux, lui ont réservé un accueil chaleureux. Francis Ngannou, en retour, leur a signifié toute sa reconnaissance pour ce soutien.
C'est ce soutien-là qui m'a permis de tenir le coup jusqu'ici. Il y a 3 ans, j'ai échoué ma mission et je vous ai promis que j'allais ramener cette ceinture à la maison.
Dans un impressionnant tour de la ville, escorté par des milliers de motos et voitures, le champion du monde poids lourd des arts martiaux, mixte, a brandi au public la ceinture conquise durant la nuit du 27 au 28 mars 2021 à Las Vegas devant Stipe Miocic. Pour le gouverneur de la région du littoral, le sportif camerounais de 35 ans est un modèle. Samuel Dieudonné Yivaya, gouverneur du littoral.
Ngannou est un exemple palpable d'un Camerounais qui sait se battre contre vents et marées. Un Camerounais qui a traversé des étapes les plus difficiles de la vie et qui, croyant en lui-même, s'est hissé au sommet.
Francis Ngannou va également présenter son titre aux populations de Batié, sa ville natale, dans la région de l'Ouest. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Merci Emmanuel.
Merci Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, plusieurs personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans les manifestations violentes qui ont eu lieu autour de la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Les organisations de la société civile et l'ambassade des États-Unis au Bénin s'inquiète de cette vague d'arrestations et invite les autorités à préserver la paix et le modèle démocratique qui ont caractérisé le Bénin depuis plusieurs décennies. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adambé.
L'élection présidentielle a été remportée au premier tour par le président Patrice Talon, mais le scrutin a été contesté, souvent violemment, dans les rues de plusieurs villes du Bénin. Plusieurs personnes ont été arrêtées, des activistes, des femmes, des membres des forces de l'ordre et surtout des opposants comme Joël Aïvor, Alexandre Rontondi, Joseph Tamayon ou encore l'ancien ministre Alain Oudou. Le directeur de la communication de la présidence a expliqué sur une radio que ces arrestations ne sont pas faites sur un coup de tête. Wilfried Léandre Rombedi.
Il n'y a pas de particularisme à faire sur les noms que vous évoquez. Dans tous les cas, personne ne se retrouve invité à répondre aux préoccupations du procureur spécial de la CRIET ou de la justice tout court s'il n'y a pas, à tout le moins, des soupçons évidents contre cette personne et les enquêtes se poursuivent.
Juste après sa réélection, le président Patrice Talon s'est rendu au chevet des militaires et policiers blessés lors des manifestations. Une visite au cours de laquelle le chef de l'État s'est mis en colère au sujet de l'étendue des dégâts.
Pour que nos difficultés ne nous amènent plus, nos heurts, nos différends, nos controverses ne nous amènent plus à ce genre de choses qui sont inacceptables, tirées sur les hommes comme sur du gibier. Et entendre des gens loin du pays appeler publiquement à armer des chasseurs, armés des personnes pour tirer sur leurs autres frères et sœurs et que ça ne doit pas s'arrêter. Il faut que ça continue. Il faut qu'on tire sur eux davantage. C'est terrible.
Dans un communiqué rendu public, l'ambassade des États-Unis au Bénin s'est dit soucieuse des violences qui ont émaillé le processus électoral et appelle chacun des acteurs à jouer son rôle pour l'enracinement de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Interrogé sur cet appel de l'ambassade, le ministre porte-parole du gouvernement se veut rassurant. Alain Auron-là.
Nous faisons ce que nous avons à faire et nous ne pouvons pas empêcher les uns et les autres, nos amis, nos partenaires, de porter une appréciation sur notre processus électoral. On nous adresse une exhortation que nous partageons.
Pour de nombreux observateurs politiques, ces arrestations portent un coup à ce nouveau mandat de Patrice Talon. Vigile Aroncet est un analyste politique.
C'est plutôt la fermeté, c'est plutôt les arrestations et certainement des multiplications d'exilés. Désormais, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour une nouvelle ère, n'est-ce pas, pour ce nouveau mandat qui commence.
Patrice Talon, dont le précédent mandat a été prolongé de 45 jours, doit prêter serment le dimanche 23 mai. De Cotonou, Ginette Le Adandé pour VOA Afrique.
Au Sénégal, le président Macky Sall a promis de mettre un terme au désordre à l'université Cheikh Anta Diop en réaction aux violences récurrentes entre étudiants au sein du campus de Dakar. Retour sur ce syndrome qui gangrène la plus grande université du Sénégal et qui a récemment fait un mort et des blessés graves après une bagarre entre deux groupes d'étudiants. Notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué.
L'université de Dakar est en permanence sous haute tension. Si elle n'est pas le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants, elle est le théâtre de règlements de comptes entre ces derniers. Une situation alarmante qui a poussé l'assemblée restreinte de l'université à suspendre toutes les amicales d'étudiants et à fermer le campus social. Une décision impopulaire qui a finalement été annulée. Cependant, des étudiants comme Amadou Fall estiment qu'il faut redéfinir les règles de cohabitation.
Je déplore toute cette situation. Et il faut des mesures fortes. Un malheur ne vient jamais seul. Il y a des étudiants qui rajoutent souvent de l'huile sur le feu quand il y a un problème au sein du campus. J'estime qu'un étudiant, avec tout ce que cela symbolise, n'a pas le droit d'être violent, encore moins d'être armé. Voilà pourquoi je leur demande d'être solidaires. Il y a tellement d'associations et de groupes, donc nous gagnerons à nous unir, nous serrer les coudes. Notre objectif principal reste les études pour après réussir dans la vie. Restons donc concentrés. D'aucuns feront 5 ans ici, d'autres 3, certains même abandonnent. Donc soyons en paix le temps des études.
3 ans.
La surpopulation universitaire, l'insécurité ou encore l'usage d'armes blanches, les conflits à caractère identitaire sont autant de problèmes qu'il faut résoudre avec des mesures fortes. C'est la conviction d'Alun Samba qui affirme que le mal est profond.
Depuis un moment, nous assistons au Sénégal à des débats ethniques houleux. Et il faut dire que certaines autorités ou encore des responsables en sont les initiateurs. C'est très dangereux pour une nation. Aujourd'hui, les étudiants s'y mettent. Nous fustigeons les violences. L'université est le Sénégal en miniature. Donc, il est temps de prendre en charge sérieusement ce genre de situation qui dégénère tout le temps. Il faut taper du poing sur la table. Des conflits ethniques dans un espace dédié à la quête du savoir, cela est déplorable. Aucune excuse ne le justifie.
Oui, le mal est profond, confirme le professeur Ibrahim Agnan, socio-anthropologue. Pour lui, les scènes de violence n'ont pas leur place à l'université, les conflits à caractère ethnique encore moins. L'universitaire invite les étudiants à prendre en exemple leur illustre parrain, le professeur Cheikh Anta Diop, un scientifique qui a passé sa vie à prôner la culture du savoir, de la paix et de la cohésion sociale.
Donc il va falloir reprendre les choses à leurs racines.
Les autorités universitaires et étatiques entendent faire revenir la sérénité au sein des campus, notamment celui de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les premières mesures qui visaient une suspension des amicales d'étudiants et la fermeture du campus social ont été annulées. Elles sont jugées inopportunes par les étudiants et insuffisantes par certaines parties prenantes. Sont attendues maintenant les mesures du président Macky Sall qui a promis de mettre de l'ordre dans les universités. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, les gouverneurs de 5 États du Sud-Est annoncent la création d'une force conjointe de sécurité régionale. L'initiative vise à trouver une réponse vigoureuse à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Une initiative similaire avait donné naissance à un groupe de sécurité régionale dans le sud-ouest connu sous le nom d'Amo-Tikoun, mais n'a produit aucun résultat depuis sa mise en place. Quelle va être la nouvelle stratégie et quel impact aura ce nouveau groupe sur l'insécurité dans la région? Élément de réponse dans ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
L'initiative regroupe les États d'Abia, d'Anambra, de Bouenji, d'Enugu et d'Imo. Ibubeagu, c'est le nom de la force conjointe qui signifie léopard glorieux en langue nationale Ibo. Cette force servira à lutter contre l'insécurité croissante dans la région du sud-est du Nigeria. C'est l'objectif qui se fixe les gouverneurs de ces États. La réaction de l'expert en sécurité, Kabiru Adamu.
There is a gap in security at the moment that the federal government is not filling.
Il y a un vide en ce moment dans le secteur de sécurité que le gouvernement n'arrive pas à compenser. Maintenant, si ces groupes d'autodéfense, ces initiatives au niveau régional ou des États sont bien équipées et organisées et qu'ils sont acceptés par les populations, il pourrait y avoir un changement. Malheureusement, dans le cadre de la force conjointe à Amo-Tikoun, l'erreur qui avait été commise était de penser que ce sont les Fulani seuls qui étaient responsables du crime.
Le groupe séparatiste des peuples autochtones du Biafra, connu sous le nom d'IPOB, qui lutte pour l'établissement d'un État indépendant, est actif dans cette région du Sud-Est. Ces dernières semaines, des hommes armés non identifiés ont pris pour cible des postes de police, tuant des policiers et emportant des armes et des munitions. Plus de 15 policiers ont été tués, tandis que près de 2000 détenus ont réussi à s'échapper lors d'une récente attaque contre la prison dans l'État d'Imo. Ce week-end, c'est le domicile du gouverneur de l'État d'Imo qui a fait l'objet d'attaques par des hommes armés. Pour la directrice du Centre pour la démocratie et le développement, Ebube Agou n'est pas la solution pour mettre fin à l'insécurité dans la région. Hidayat Hassan.
They are not the solution to the problems in the country because at first they might look
like that. Ces groupes ne sont pas la solution aux problèmes dans le pays. On peut penser au début qu'ils peuvent être la solution, mais l'expérience a montré que souvent ils violent les droits humains. C'est aussi une autre source de prolifération des armes. Et lorsqu'on tente de les désarmer, que deviennent ces armes?
Les affrontements entre agriculteurs et éleveurs peuls touchent de nombreuses communautés de cette région. Les gouverneurs du Sud-Est sont le deuxième groupe à mettre en place une force de sécurité régionale pour faire face aux défis sécuritaires dans le pays. L'annonce de la création de cette deuxième force dans le Sud-Est a suscité un débat au niveau national sur la capacité de cette force à répondre aux attentes des populations. L'ancien deuxième vice-président du barreau nigérian et analyste Onyekachi Ubani estime que c'est le seul moyen en ces temps de crise dans le pays. Il s'exprimait lors d'un débat autour de la question sur une chaîne de télévision locale.
C'est le meilleur moyen, c'est que se joue présentement dans le pays. Les dirigeants des régions disent qu'ils ne peuvent pas continuer à voir leur population se faire tuer juste comme ça. Nous avons besoin de sécuriser leurs biens et leurs propriétés. Les gens ont applaudi lorsque la force Amotekun est née, mais nous devons faire le point sur la formation et le processus de recrutement.
L'année dernière, la partie sud-ouest du Nigeria a mis en place une force régionale appelée Amotekun, qui signifie aussi le léopard en langue yoruba. Un an après que les 6 gouverneurs des États du sud-ouest du Nigeria ont établi Amotekun en tant qu'organisme d'intervention pour maintenir la sécurité, les enlèvements et les meurtres sont restés monnaie courante dans la région. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05, taux universel sur VOA Afrique. Avec vous, Claire Morin-Gibourg. Les difficultés pour obtenir un permis de conduire. Les lenteurs administratives, la corruption ou les prix élevés des auto-écoles. Quelle est votre expérience et que faire? Venez en discuter en direct dans À votre avis à 18h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05, temps universel.
La sagesse de la pieuvre, Octopus My Teacher, est le premier film africain couronné de l'Oscar du meilleur film documentaire. L'équipe sud-africaine qui a réalisé ce long métrage espère contribuer à la protection de la vie aquatique dans les forêts d'algues marines géantes qui couvrent 25% des zones côtières du monde, notamment autour du Cap. Valérie Hirsch, notre correspondante en Afrique du Sud.
La sagesse de la pieuvre suit les plongées en apnée de Craig Foster, un réalisateur sud-africain de films animaliers victime d'une grave dépression en 2010. Son amitié avec une pieuvre lui redonne goût à la vie. Tourné en grande partie par Foster lui-même, le film a été co-réalisé par Pippa Ehrlich, une journaliste qui signe son premier long métrage. Présente à Los Angeles lors de l'annonce de l'Oscar, elle a réagi avec beaucoup d'émotion.
En grande partie, c'est une petite histoire qui se passe dans la forêt maritime au bout de l'Afrique. Mais sur un plan plus universel, j'espère qu'elle apporte un aperçu sur une vie différente entre un être humain et le monde naturel.
Craig Foster a réussi à apprivoiser la pieuvre en plongeant tous les jours pendant des années dans les eaux froides et dangereuses près du Cap. Les images sont étonnantes, notamment quand la pieuvre s'enrobe de coquillages pour échapper aux attaques d'un requin. Au-delà, Foster a ressenti une incroyable connexion avec le monde naturel.
Quand on pénètre ainsi au plus profond de la nature et de la vie d'un animal, on prend conscience que tout ce que nous faisons, nous les hommes sur cette planète, s'inscrit dans cette nature et dans ce grand esprit du monde naturel.
Le film a été coproduit par l'ONG Sea Change Project, cofondé par Foster. Pippa Ehrlich espère que l'Oscar permettra de conscientiser le public sur l'importance de préserver la vie sous-marine dans ces forêts d'algues côtières.
The thing about kelp forests that very few people know is that they cover 25% of our global coastlines.
Ces forêts de kelp, et peu de gens le savent, couvrent 25% des zones côtières de la planète. C'est le deuxième écosystème marin le plus vulnérable au réchauffement climatique. Ces forêts sont très importantes, ces forêts maritimes, car elles sont d'importantes réserves de captation de carbone et elles recèlent d'une extraordinaire biodiversité marine. Et elle protège nos côtes des tempêtes, ce qui est très important en raison de l'élévation du niveau des mers. Pourtant, on parle très peu d'elle.
La sagesse de la pieuvre, premier documentaire sud-africain produit par Netflix, a reçu une vingtaine d'autres prix, dont le BAFTA du meilleur documentaire en Grande-Bretagne. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.